Et pour commencer ce journal, la France va devenir le premier pays d'Europe à généraliser la reconnaissance faciale.
On assiste en France à de plus en plus d'expérimentations de la reconnaissance faciale. Les portiques biométriques dans les lycées, le carnaval de Nice ou dans les aéroports. Le ministère de l'Intérieur lance une nouvelle application sur Android, Alicen. Elle propose aux citoyens de se créer une identité numérique pour tout ce qui est procédure administrative, et ce, à partir de la reconnaissance faciale. Selon les révélations de Bloomberg aujourd'hui, elle sera lancée dès novembre. La France sera donc le premier pays de l'Union européenne à utiliser la reconnaissance faciale pour donner aux citoyens une identité numérique, mais cela pose de nombreuses questions, et notamment sur la protection des données personnelles. Martin Drago est juriste à la Quadrature du Net, l'association de défense des droits et libertés des citoyens sur Internet. Il engage une action en justice contre l'État.
Le problème, c'est que cette application, elle oblige les personnes qui veulent se créer cette identité numérique en ligne à passer par un dispositif de reconnaissance faciale. Et pour cela, le gouvernement dit qu'on va demander le consentement des gens pour utiliser cette application. Le problème, et c'est là qu'on est un peu technique, c'est que dans le nouveau texte européen sur le règlement général des protections des données personnelles, le consentement des gens, il doit toujours être explicite, c'est-à-dire qu'on doit bien comprendre à ce à quoi on consentit, mais il doit aussi être libre. Et libre, ça veut dire non contraint. Et ce qui est intéressant dans l'application Alicen, c'est qu'en fait, les gens, on pense, on leur dit qu'on a leur consentement, mais en fait, on les oblige à passer par un dispositif de reconnaissance faciale. Et c'est là qu'il y a une inégalité par rapport au règlement général des protections des données personnelles. L'État, le ministère de l'Intérieur ici, quand il crée ce type d'application, qui concerne notamment l'identité, qui concerne le traitement de données biométriques, il prend un décret. Et ce décret, il doit avoir un avis de la CNIL, c'est-à-dire la Commission nationale informatique et liberté, l'autorité en France qui s'occupe de la protection de la vie privée. Et la CNIL, dans son avis, elle a dit, bah, écoutez, là, il y a clairement un problème avec le règlement général sur la protection des données personnelles parce que vous ne respectez pas le consentement des gens. Il faut aussi voir, c'est que c'est un élément de contexte, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on assiste en France à de plus en plus d'expérimentations, de légitimation de la reconnaissance faciale, sans qu'il y ait vraiment un débat public. Sans qu'il y ait même de réflexion juridique ou éthique sur cet outil. Et on voit que la CNIL, même quand elle donne un avis en disant « Attention, là, il y a un truc de reconnaissance faciale, vous respectez pas la loi », même quand la CNIL dit ça, le gouvernement ne la respecte pas et publie son décret tel quel.
Oui, précisons que nous avons tenté de joindre le ministère de l'Intérieur qui n'a pas pu répondre à nos questions.
En bref, selon une étude parue dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical, de plus en plus de conditions pour l'apparition de la vie sont réunies sur le satellite de Saturne Encelade.
Sur Encelade, on soupçonne déjà l'existence d'un immense océan sous la surface du globe. Une équipe germano-américaine a examiné les données de la sonde Cassini. Elle a identifié de nouvelles molécules organiques. Dans des grains de glace, ils ont identifié du méthane, du dioxyde de carbone, de l'ammoniac, de l'oxygène, de l'hydrogène moléculaire, des noyaux aromatiques et des sels de sodium. Ces éléments, ce sont la base des acides aminés sur Terre, acides aminés qui permettent la synthèse des protéines.
Et à Grenoble, une personne tétraplégique a retrouvé la marche grâce à une neuroprothèse.
C'est une première médicale et les résultats de cet essai clinique sont publiés aujourd'hui dans la revue The Lancet Neurologie. En 2017, des médecins ont implanté sur le cerveau du patient 64 électrodes sur chacune des hémisphères dans la zone du cortex sensorimoteur. Cette interface en cerveau-machine lui a permis de piloter par la pensée un exosquelette. Pour le moment, les mouvements de l'exosquelette sont soutenus par un harnais. Il n'y a donc pas une autonomie de marche. Les possibilités cliniques sont encore très lointaines, mais c'est une preuve de concept.
Dans le journal des sciences, cette semaine, nous avons décrypté le budget 2020 de la recherche en France. Nous avons vu une remise en cause de la théorie de la matière noire. Nous avons découvert que les bactéries peuvent changer de forme pour échapper aux antibiotiques. Et nous avons observé 3 trous noirs supermassifs sur le point de fusionner. Tout cela, vous pouvez le retrouver dans les journaux des sciences sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc ainsi que sur le site de la méthode sur franceculture.fr. Mais cette semaine, en ultra bref, Natacha.
C'est officiel, le satellite Jason 2 tire sa révérence aujourd'hui. Cela faisait 11 ans que le satellite du CNES et de la NASA collectaient des données sur l'évolution des océans. Grâce à ces données, plus de 2000 publications scientifiques ont vu le jour, et notamment le dernier rapport du GIEC sur les conséquences du réchauffement climatique sur les océans. grâce aux trois télescopes les plus puissants du monde, Subaru, Keck et Gemini, une équipe internationale vient de découvrir le protocluster Z66-OD, le plus vieux protocluster de notre univers. Un protocluster, c'est un embryon de galaxie. Il est composé ici là, de 12 galaxies, vieilles de 13 milliards d'années. C'est seulement 800 millions d'années après le Big Bang. Et enfin, selon une étude parue aujourd'hui dans Science, un animal sauvage sur 5 est vendu sur le marché. Cuir, ivoire, alimentation de luxe, médecine ou animaux de compagnie, 18% de toutes les espèces vertébrées sont concernées par le commerce de la faune sauvage. Ce chiffre est l'un des facteurs de risque d'extinction des vertébrés les plus marqués au monde.
Et on passe, comme un vendredi sur deux, c'est une nouveauté, vous le savez désormais cette année, au journal de la science-fiction avec ce mois-ci et en début de semaine, Natacha, le lancement du mois de l'imaginaire.
Qui se déroule tout le mois d'octobre. C'est la troisième édition de cet événement qui fait la promotion de la littérature de l'imaginaire. Science-fiction, fantasy, fantastique. L'initiative mobilise une quarantaine de maisons d'édition et propose plus de 200 événements dans toute la France durant tout le mois d'octobre. Et ça se termine le 3 novembre au Festival Les Utopiales à Nantes.
Les festivals des Utopiales ou la méthode scientifique ainsi que plein d'autres programmes de France Culture sera, donc vous êtes le bienvenu soit à Nantes soit à l'antenne, il y aura François Angelier et Mauvais Genre, il y aura Étienne Klein, il y aura Victor Massé de l'Épinay pour sa nouvelle émission de bande dessinée notamment, bref on vous en reparlera évidemment.
Et ce mois de l'imaginaire en tout cas il prend de l'ampleur avec des événements aussi en Suisse et en Belgique et les deux dernières éditions ont été de grands succès en librairie. L'événement devient un temps fort pour la SF. Jérôme Vincent est éditeur chez ActuSF et co-organisateur.
Ce qui est original dans cette initiative, c'est qu'on a le regroupement de 40 éditeurs. D'un seul coup, il y a des gens qui sont normalement concurrents, par essence, qui aujourd'hui disent on travaille tous ensemble pour essayer de multiplier les actions pour l'imaginaire pendant le mois d'octobre. Les dernières éditions ont été de bons succès. Alors, il y a une partie cuisine interne où moi je peux vous dire qu'en gros les chiffres de vente sur les mois d'octobre du mois de l'imaginaire sont meilleurs que les mois d'octobre des années précédentes, donc ça on est plutôt content. Et puis surtout moi ce que je retiens c'est l'engouement général.
Est-ce qu'on peut dire qu'en France il y avait justement un manque pour valoriser ou en tout cas promouvoir la littérature SF?
C'est une vaste question, il faudrait peut-être en parler pendant des heures. En fait, il y a un double paradoxe. En fait, on vit dans un monde de science-fiction et de fantasy. Ce que je veux dire, c'est que ce soit Star Wars ou Game of Thrones, les séries télé, les films, les grands succès au cinéma, mais aussi en jeux vidéo ou en BD, relèvent de l'imaginaire, parce que c'est un genre qui est intéressant, et on le sait depuis des années, parce que c'est un genre qui raconte le monde de manière vraiment puissante. Donc, l'imaginaire est là, et pourtant, on a constaté, on a des outils pour mesurer, par exemple, l'impact médiatique. On s'est rendu compte que sur certaines émissions littéraires grand public, on avait du mal un petit peu à avoir des livres de science-fiction qui étaient présentés, à l'instar de la littérature générale. Donc du coup, on est un peu dans ce double paradoxe-là, mais c'est plutôt de la méconnaissance véritablement du genre qu'un rejet profond. Donc on est à la fois dans un monde de science-fiction et on a un peu des difficultés de temps en temps à être représenté à ce qu'est le marché de l'imaginaire aujourd'hui.
En bref, toujours dans ce journal de la SF, selon une étude parue dans la revue Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts, les fans de fantastique et de science-fiction seraient de meilleurs partenaires amoureux.
Les psychologues de l'Université d'État de l'Oklahoma ont fait passer un test à plus de 400 personnes. Elles devaient citer les noms d'auteurs spécialisés de SF, de littérature classique, de polar, de fantastique et de romans d'amour. Puis, elles devaient donner leurs opinions sur différentes conceptions de l'amour, plus ou moins idéalistes. Les chercheurs concluent que les amateurs de SF ont une conception plus réaliste et plus optimiste d'une relation amoureuse. Selon eux, les lecteurs de science-fiction ont une plus grande aptitude à concevoir les capacités évolutives de l'être humain et peuvent donc transposer cette idée au sein du couple.
Je pense que tout le monde est d'accord autour de la table. La BBC et la Fox lancent chacune leur mouture d'une série de la guerre des mondes, Natacha.
Les deux chaînes concurrentes adaptent chacune le roman de H.G. Wells, qui a déjà fait l'objet de nombreuses adaptations sur le petit et sur le grand écran. Pour la BBC, l'action se passe dans l'Angleterre des années 90 et sera diffusée cet automne. Pour la Fox, qui s'associe à Canal+, l'invasion extraterrestre se déroule dans l'Europe d'aujourd'hui, avec au casting Léa Drucker et Gabriel Byrne. La diffusion des 8 épisodes commencera en tout cas aux Pays-Bas à partir du 4 novembre.
Et pour conclure ce journal, comme chaque semaine, la rubrique des sciences improbables, aujourd'hui, Natacha, une étude parue dans la revue BioEssays pose une question. puis justement après les tripodes de la guerre des mondes, pourquoi aucun animal sur Terre n'a-t-il trois pattes?
Parce que sur notre planète, les animaux marchent sur deux jambes, sur quatre jambes, sur six, voire sur 750. Pourquoi donc les animaux n'en ont-ils pas trois? Dans ce papier, il est rappelé que la grande majorité des espèces ont deux côtés symétriques. Donc la réponse à cette question se trouverait enracinée dans l'histoire de notre évolution. L'étude suggère que le fait d'être bilatéral serait apparu très tôt dans l'ADN du vivant. L'étude rappelle même que dans les archives fossiles, on ne trouve pas d'organismes à trois pattes.
Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve eh bien lundi prochain pour une nouvelle semaine de Journal des Sciences. Je vous rappelle évidemment que tous les liens vers les études, vers les bandes annonces des séries, vers tout ce qui a été évoqué et tout ce qui va être évoqué au cours de l'heure qui vient, c'est à retrouver sur le fil Twitter de La Méthode Scientifique @laméthodefc.